Bonsoir à toutes et à tous. On est dans une spéciale de l'émission Hellbanger, puisqu'on retrouve là le format interview en différé. On accueille du coup à distance Émile, vocaliste de Beyond the Sticks. Et en fait, j'ai déjà le sentiment d'avoir donné trop d'infos d'un coup. Salut Émile.
Salut Damien, salut Thibault.
Alors du coup, on te retrouve une fois de plus sur les ondes du 93.6 dans le cadre de l'émission Hellbanger. Là, c'est pas pour nous parler d'un événement riposte, c'est pour
C'est
nous
vrai.
parler de quelque chose qui te touche et te concerne un peu plus personnellement, puisque c'est de ton groupe de musette dont il s'agit.
Oui, tout à fait, avec ma troupe, je dirais, de joyeux saltimbanques, on sort un nouvel album et donc indispensable de passer sur les ondes du 93.6 et puis de Hellbanger pour en parler, tout comme on l'avait fait il y a déjà 4 ans maintenant, le temps passe vite.
Exactement. Du coup, c'était il y a 4 ans, là c'est le quatrième album. Est-ce que tu peux nous faire une synthèse un petit peu de l'historique de Beyond, ce qu'est Beyond, d'où vient Beyond et où se situe Beyond the Sleep à l'heure actuelle?
Waouh! Je vais essayer de faire très synthétique. Beyond, donc c'est un groupe à la base, je dirais, expérimenté un peu entre metalcore et deathcore. On a formé avec Adrien, ayant respectivement joué par le passé dans le passé dans un groupe qui, on va dire, balbutiait son hardcore. Et de fil en aiguille, de membre en membre, je dirais.
Adrien, le batteur, au passage.
Ouais, c'est vrai que je n'ai pas précisé. De fil en aiguille, de membre en membre, c'est composé, décomposé Beyond pour, je dirais, progressivement aller vers une sorte de Metallic Hardcore, une sorte de Hardcore Crossover. Bon, je ne saurais pas trop dire parce que les puristes vous diront que c'est pas hardcore et les métalleux vous diront que c'est pas du métal. C'est ça qui est bien, comme dit Adrien, c'est qu'on n'est jamais à notre place en fait. On est trop hardcore pour les métalleux, on est trop et on est trop métal pour les coreux. Donc en vérité, voilà, on est toujours un petit peu dans cet entre-deux. Le groupe a pas mal évolué. On a une malédiction du guitariste lead. En fait, en vérité, on n'a réalisé aucun album déjà avec le même line-up de guitaristes tout court et aucun album avec le même guitariste lead tout court. Voilà. Donc,
T'as vu le bourg en quelle année Beyond the Sticks avec du coup Adrien et toi?
alors, le groupe a été formé en octobre 2010, première date le 21 juin 2011 au Buck. Voilà, et donc depuis 350 dates, je dirais plus d'une cinquantaine de festivals, on a dû jouer dans presque 10 pays européens. Voilà, et puis donc un nouvel album, je dirais, je pense, encore plus violent que ses prédécesseurs. Après, tout dépend comment, à quel niveau on place le degré de violence. En tout cas, moi, je sais que si j'étais un public averti, voilà, là j'irais les deux pieds en avant. Voilà, je taclerais méchant, je prendrais un rouge en 2 minutes chrono. Voilà.
Alors on en reparlera justement dans la deuxième partie de l'interview où on parlera de la genèse de cet album et justement là je reprendrai ta métaphore pour présenter le premier morceau qu'on s'écoutera. Beyond the Sticks, tu parlais d'une évolution vers un metalcore deathcore peut-être un peu maladroit sur vos débuts pour arriver maintenant à un metal hardcore beaucoup plus assumé et bien implanté. Premières apparitions live en 2011. Le premier album, il a vu le jour il y a combien de temps maintenant?
Oh putain, 2013, je crois que c'est un truc comme ça. J'ai pas.
Ah, j'aime les interviews pas préparées comme ça, moi j'adore.
Ouais, non, parce
Après
que.
2013, le second.
Putain, alors là, tu me poses une colle, il faudrait que j'aille sur Internet. En vérité, je suis nul en date. Enfin,
Putain, mais
dis-toi que
t'as pas révisé tes classiques.
Ah non, 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 mais c'est pas du tout une blague, en fait. Stigma, je pense qu'on doit être...
Non, bon, le troisième, on sait qu'il est sorti en 2022.
Ouais, ça, c'est vrai. En fait, 5 ans, je voilà. pense, avant, quasiment. Je dirais 2018, ça doit être ça. Mais je pense okay. que ton frère pourra nous contredire.
Très bien. Et du coup, là, voilà, 4 ans entre les deux albums. Moi, j'ai souvenir de ce troisième effort studio Sentence, d'inspiration particulièrement marquée sur le, justement, tu en parlais là un peu sur la présentation du groupe, crossover, avec, on l'avait noté, des influences très Get the Shot et en tête. Avec d'autres inspirations quand même. On a Thibaut qui à la prod qui nous met en off 2015 et 2018 pour les deux premiers albums.
Ouais, ok. Merci pour le...
Léviathanima ouais. en 2015 et Stigma en 2018. Merci la prod.
Merci pour le rappel.
Voilà. Ouais, voilà, t'avais dans les influences qui sont tendues, t'avais cette vibe Get the Shot. Ce troisième album, comme le second, avait été confié avec Danielson aux manettes.
Ouais.
Pour donner ouais. encore plus cette dimension canadienne au son. Là, du coup, comment tu qualifierais, on va teaser un petit peu la deuxième partie de l'interview, comment tu qualifierais les inspirations de ce quatrième album ?
En fait, alors moi, pour parler de soi, c'est peut-être des fois plus simple de prendre la parole des autres. Dan, qui était aux commandes de l'enregistrement de cet album, lui disait en anglais, mais je vais le dire en français, que pour lui, Sentence, c'était un album metal hardcore, et pour lui, Divide ou Divide, je ne sais pas comment les gens veulent le prononcer, à eux de se l'approprier, c'est plutôt un album hardcore metal. Et j'aurais plutôt tendance à le rejoindre sur son appréciation. Après, en termes d'influence, c'est toujours très compliqué parce qu'en en vérité, tu vois, là où toi, par exemple, sur Stigma, tu avais ressenti du Get the Shot, Victor, lui, écoutait plus du Sworn Enemy, tu vois.
Non, pour Sentence.
Pour Stigma. Non, pour Sentence, on était plutôt sur des trucs un peu plus métal parce que Arnaud était très... était très métal. Lui, c'est un grand fan de Gojira, donc c'est vrai qu'on a surabusé des tapis doubles. Et puis en même temps, Adrien, qui est un grand fan de Chimera aussi, forcément, là, il s'était fait pour s'entendre les deux. Donc ça allait de pair. Là, c'est vrai que David a quasiment composé, je dirais bien 80% de l'album. Donc c'est vrai que. Les influences étaient peut-être un peu plus bas du front, et puis en même temps, parce qu'aussi, c'est des choses qu'on avait envie de partager aussi, on se rend compte de ce qu'on aime aussi partager en live, et voilà, il y avait aussi une volonté que ça groove peut-être aussi davantage.
Alors pour reparler du Sentence qui était sorti il y a 4 ans, les premières appréciations dont j'avais pu faire part à ce moment-là, c'était quoi là le reproche sur les deux précédents albums, c'était putain mais les breaks on les sent arriver mais ils sont pas lâchés. Là sur Sentence les breaks étaient lâchés, on avait des séquences dévastatrices, beaucoup de groove, ton chant avait pris une autre dimension où, un peu moins criarde, beaucoup plus hargneuse, agressive, et du coup moi j'étais resté sur cet avis de ça y est, les choses sérieuses commencent pour de vrai pour Beyond the Sticks avec ce troisième album, et là voilà, quand j'ai vu que ça commençait à gigoter pour préparer un quatrième album, j'étais très curieux de voir l'évolution qui allait en découler. Cet album, je n'ai pas du tout, comme on en avait parlé un peu en off, je n'ai pas du tout écouté les extraits qui ont été sortis ponctuellement. J'ai attendu que tu me permettes de l'écouter en intégralité. Et quand j'ai fait lecture, je suis donc tombé d'entrée de jeu sur le premier morceau que vous avez diffusé, qui n'est autre que le titre de l'album Dust Off.
Ouais.
Je disais, là, avec cet album, pour un public averti, tu serais du genre à rentrer direct, à prendre un carton rouge en 2 minutes avec un gros tact.
Ouais.
Je crois que ça doit faire entre 15 et 20 secondes sur ce morceau, donc l'ouverture de l'album, je le rappelle, avant d'avoir envie de prendre un tacle à la gorge, parce qu'on a un espèce de call break super bien loti, après 20 secondes de ce titre d'ouverture. Donc effectivement, on a envie d'agresser les gens qui nous entourent dès le tout début du premier morceau d'ouverture de cet album. Ce qui annonce du coup des choses très très bonnes pour la suite, ce qu'on peut estimer à ce moment-là. Je propose qu'on se fasse une première pause d'illustration musicale avec Dust Off, du coup le premier morceau que vous avez diffusé. Ouais. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ce titre et pourquoi l'avoir mis en ouverture de l'album ?
Alors déjà, à la base, moi je ne voulais pas le mettre en premier titre de l'album déjà. Il y a eu beaucoup de discussions hein, sur la composition de cet album. Pour moi, ça me paraissait un petit peu délicat de partir sur un featuring. Et puis, bah, forcément, mon cher Adrien a sorti un peu l'argument majeur. C'est Emile, tu sais que l'album que tu préfères de The Acacia Strain, il commence par un featuring. Et alors là, mm-hmm. là je ne m'attendais pas à cet argument. J'ai fait l'accord OK. Sensible. Bon, voilà, bon, c'est bon. Validé. j'avais pas de contre-argument possible. C'est vrai que c'est un titre punch. Et puis, bah, c'est un feat avec Okan Deniz, le chanteur d'I Am Revenge, qui est même devenu un ami. Et un titre complètement antifa, antiraciste, genre d'hymne qu'on avait peut-être, mais pas aussi explicite. Et voilà, on vit dans un monde où certains ne se privent plus pour dire haut et fort ce qu'ils pensent ou est-ce qu'ils taisaient peut-être hein, de l'altérité d'une manière générale. Ben moi, je vois pas pourquoi je prendrais des pincettes pour dire ce que je pense, non pas d'eux, mais ce que je pense de leur pensée, en fait, véritablement. Et ça n'a jamais rien construit, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Je suis pas persuadé qu'on construise en opposition des autres. Je pense qu'on construit avec les autres, avec nos différences. Et je pense que c'est notre plus grande chance, comme je l'avais déjà répété par le passé. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce titre. Et puis, voilà, ce titre sur lequel on s'ouvre l'album, finalement.
Voilà. On ouvre avec Dust Off, qui est un feat avec le chanteur de I Am Revenge. Et du coup, là, c'est la première pause d'illustration musicale dans cette interview de ce soir. Pour rappel, vous êtes à l'écoute d'Elbanger sur les ondes du 93.6. Et on est avec Emile de Riposte, qui vient nous présenter Divide. À chacun, ça me rappelle les interviews avec Dr. Fish, Aspido Kellon ou Aspido Chelon pour leur nouvel album. Bref. Pause musicale, on se retrouve juste après.
Fire with forgotten dreams.
aller-retour à l'interview avec Emile de Beyond the Sticks. On attaque la deuxième tranche de l'interview pour aujourd'hui. Et là, on va s'intéresser à la genèse de ce quatrième effort studio donc, intitulé Divide. Emile, parle-nous un petit peu de la partie pré-gestation de cet album, avec déjà l'arrivée d'un nouveau membre, comme tu disais. Voilà, vous avez la malédiction des gratteux, plus précisément des gratteux leads. Quatrième album, nouveau gratteux lead. Est-ce que tu peux un peu nous présenter le bonhomme?
Ouais, bah Guillaume. Donc Guillaume, il est luthier en fait, donc sur Nantes. Donc c'est vrai que ça fait un peu de route. Vu qu'on est maintenant, on répète entre Nantes et Tours, finalement, ça tombait presque sous le sens. Guillaume, bah, il nous a fait, je dirais, le plaisir de rejoindre l'aventure vraiment en cours de route, hein, parce que, bah, comme je te disais, David a composé 80% de l'album, mais c'est que c'est un petit peu par défaut, parce que donc Arnaud a quitté l'aventure, notre précédent guitariste a quitté l'aventure. Je crois que c'était en mars du coup de l'année passée. Donc Guillaume, lui, a dû arriver mi-avril, début mai. Il a dû intégrer du coup très rapidement un nouveau set, plus du coup des nouveaux titres sur lesquels essayer de rajouter sa patte sans dénaturer, je dirais, l'ossature qu'avait composé David, parce que bah, c'est vrai qu'aussi dans cette phase d'audition de nouveaux guitaristes, l'idée c'était de pouvoir trouver quelqu'un qui pouvait trouver sa place sans dénaturer, sans chercher à trop dénaturer, je dirais, ce qui avait déjà été écrit.
Ouais, tout le travail fait précédemment. Ouais.
Ouais, et l'esprit du groupe. Donc voilà, enfin, il y a... Enfin, franchement, ça a été une période assez compliquée pour nous, parce que, en fait, suite au départ de Arnaud, pour les raisons qu'il a exposées sur les réseaux sociaux, on s'est retrouvés partagés sur l'idée de continuer à 4 ou de continuer à 5. Bon, voilà, on a fait le choix.
Un petit peu ma question, du coup, voilà, effectivement, par rapport au fait que David avait composé beaucoup, c'était voilà, ouais. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, bon, en fait, on continue à 4? Ok, ouais, c'est quelque chose qui avait été potentiellement
envisagé.
La question
s'est posée. Okay. La question s'est posée, mais en fait, comment dire, il aurait fallu révolutionner aussi un petit peu la manière de notre équipement sur scène, notre manière de penser aussi. Le son, pour moi, jouer avec une nappe ou une doublure de guitare lead, c'était impossible, pour Adrien aussi. Et il se trouve quand même que lors des auditions, on a eu quand même aussi plusieurs très bons guitaristes, et je tiens à tous les remercier, en tout cas, du temps prendre pour notre groupe, pour le projet, parce que, enfin, voilà... Pour le coup, on n'a pas été pris pour des idiots, et ça fait plaisir, d'une certaine manière, quand même, d'être pris au sérieux. Et il y a eu une deuxième déconvenue, c'est qu'on était censé aller enregistrer au Canada. Et pour des raisons, je dirais, managériales, vous comprendrez ce que vous voulez à travers ça, on a dû faire marche arrière. Parce qu'on était dans l'incapacité, un mois avant d'aller enregistrer, d'avoir des confirmations qui, en tout cas, je vais parler seulement pour moi, mais enfin, la majorité du groupe, pour ne pas dire l'intégralité, était d'accord, nous paraissait indispensable, à savoir comment allait se passer l'enregistrement, où il allait se passer, des questions aussi financières qui sont font partie intégrante du processus d'enregistrement. Voilà. Et pour moi, un processus d'enregistrement, c'est quelque chose qui t'engage financièrement, d'accord, c'est quelque chose qui t'engage humainement et artistiquement. Et aller au Canada juste pour trouver de l'artistique, c'était pas quelque chose de possible dans les conditions où on nous l'a proposé. Voilà, pour faire court. Et donc, il s'est engagé C'est pour ça, quand je te parle d'épreuves qui peuvent s'apparenter au triathlon, voire à l'heptathlon, en plus de ça, il a fallu, du coup, trouver quelqu'un en capacité de vouloir prendre au vol le bébé Beyond, sachant que on avait plus ou moins des touches déjà de la BL, sachant que on avait un timing très serré pour la sortie de l'album, parce que ça faisait, en vérité, on aurait dû l'enregistrer plus tôt, mais en fait, pour des raisons de date, et dont beaucoup de groupes, je pense, que beaucoup de groupes nous envieraient, on n'a pas pu le faire, parce qu'en vérité, nous, on ne sait pas faire deux choses en même temps. Enfin, voilà, on ne sait pas jouer et composer. Enfin, c'est juste qu'on a essayé. Mais en fait, si tu veux marquer une scission entre ton son du moment et le son d'après, sauf si c'est une personne qui compose tout, c'est possible. Alors, tu me diras, je t'ai dit que David a composé 80%. D'accord. Mais quand il a composé 80%, nous, par contre, on a tous participé à 100% sur ces 80%. Et finalement, ces 80% ont été modulés par les quatre autres membres du groupe que nous sommes. Et donc, voilà, c'est non pas pour, je dirais, sous-estimer tout le travail qui a été effectué par David, mais par contre il y a eu un travail de composition, de recomposition, de décomposition commun par l'ensemble du groupe, ouais. Qui a fait que on s'est retrouvé à partir en studio avec 11 titres, qu'on en a enregistré 10, qu'en studio donc on s'est retrouvé à partir en Hollande finalement, à la place de pouvoir partir au Canada, qu'on a eu la chance, la grande chance, et vraiment je pense que j'aurais jamais assez de mots pour le remercier, de rencontrer Dan, donc qui est pas un inconnu, alors sauf pour, pas un inconnu pour ceux qui sont un petit peu dans le milieu, parce que donc lui n'avait enregistré aucun groupe étranger au Benelux avant nous. On était le premier groupe, extra néerlandais, parce que si on compte les Flamands comme des Néerlandais, bien sûr, j'entends. Du coup.
Où tu vas fâcher du monde.
Oui. Et ancien membre de Other, ça on l'a découvert, on savait qu'il avait enregistré Other, pour nous c'était. On était très très satisfaits du son qu'il avait effectué sur les deux premiers albums de Other, et c'est vrai que. C'est pour ça qu'on allait le chercher, et il avait une fenêtre de tir, et nous on s'est adapté à sa fenêtre de tir. On avait l'équivalent de on avait l'équivalent d'un peu plus de deux semaines, ou à peu plus, ouais, de deux semaines pour enregistrer, et du coup c'est ce qu'on a fait. Et une autre méthodologie, une autre approche, un humanisme et une sympathie hors pair, mais un professionnalisme, je dirais, et un perfectionnisme à toute épreuve, parce qu'on a enregistré avec quelqu'un qui touche à tout. C'est la première fois, moi en tout cas, que j'enregistre avec quelqu'un qui vient prendre mon micro et qui me dit « c'est comme ça ». Ah, d'accord, ok.
Ouais, voilà. Autant de polyvalence et de maîtrise, ok.
Ah bah, il prenait tous les instruments.
Ah, si c'est pas abusif, hein, c'est bien. Ok.
Bah non. Alors okay, c'est vrai que c'est quelqu'un qui nous a toujours proposé plein de choses, et c'est quelqu'un qui nous a toujours dit, si vous n'aimez pas, vous ne gardez pas. Et il a toujours entendu les choses, et ça, c'était vraiment un vrai travail d'équipe, et on a pu aussi entendre des choses, parce qu'il y a des titres qui ont été remodelés. Il y a trois titres qui ont été remodelés, dont un réenregistré à 50% durant le studio. Je te raconte pas la gueule que je faisais quand je me suis dit oh là là, putain, qu'est-ce que vont devenir mes paroles. Et puis également deux titres où il y a quasiment 20-25% du titre qui a évolué, en passant bien sûr tous les détails à côté, parce que c'est quelqu'un qui a une super oreille, qui a vraiment une super sensibilité, et c'est vrai que c'est un vrai travail, hein. Moi, c'est ma première véritable expérience de studio. Il faut attendre quasiment 15 ans de groupe pour ça. Et quelle rencontre et quel travail. Enfin, franchement, moi, je suis vraiment aux anges, et je serais même pas surpris que si le cinquième album il y a, un jour, on retourne mettre une pièce avec lui pour encore essayer de se dépasser, parce que c'est quelqu'un qui s'est vraiment investi dans le processus.
Ouais, qui donne cette envie.
Ouais. Et qui nous avait dit dès le début, moi je vous préviens, je suis pas un pouce-bouton. Moi je suis là pour vraiment accompagner le projet de A à Z.
Ouais, alors vivre l'enregistrement à fond. Okay.
Exactement. Et vraiment une superbe expérience.
Au niveau de l'album, moi j'ai trouvé au niveau des guitares un espèce de son de tronçonneuse. Je crois que c'est le son le plus agressif que vous avez jamais eu sur les guitares. J'aimais bien déjà ce qui avait été proposé sur Sentence, mais là c'est radical au possible. C'est l'album le plus court que vous ayez enregistré. Il tient en 26-27 minutes. Il y a un titre qui fait 4 minutes, tous les autres tournent en 2-2:30.
Ouais, c'est ça.
C'est bref, c'est frontal. Enfin, nous, c'est ce qu'on appelle, voilà, nous, effectivement, dans le langage de l'émission, c'est un album patate, bref et intense. Il hein, n'y a pas de chichi. Il est hargneux. Il est très très hargneux cet album. Il y avait une dimension très très sombre sur les deux premiers albums. Le troisième, il y avait une forme d'ouverture. Voilà, les deux premiers, tu avais le sentiment d'avoir une espèce de colère intérieure, d'une torture interne dont tu ne savais pas trop quoi faire. Le troisième, c'était une ouverture. Là, c'est ce quatrième album, c'est un énorme glavio de colère. Où il n'y a absolument plus aucune maîtrise, ça déroule du début à la fin. Tu parlais des tapis de double de Adrien, effectivement, là il y a vraiment une alternance hardcore, genre hardcore classique, avec des trucs un peu plus trashisants, voilà, pour votre dose de crossover. Ton chant, pour moi, gagne encore en intensité, en agressivité. Je l'ai écouté, comme je disais, pas mal de fois ces derniers jours. Bon, c'est pas pour jeter des fleurs. Il y a une fois, pris par la fatigue, je savais plus trop ce que je faisais, ce que j'écoutais. Je dis putain, il est bien ce nouveau Knockloose. D'ailleurs, c'est pas du tout Knockloose que j'ai enclenché en fait. Et voilà, il y a un morceau sur lequel t'es particulièrement colère et les grattes sonnent un peu américaines. Et ça rend très très bien sur le global de l'album. Donc voilà, une bonne découverte sur ses premières écoutes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le visu qui est alors avec gros guillemets, j'ai l'impression de renouer un petit peu avec vos précédents artworks les plus anciens.
Ouais,
le troisième album, on était vraiment dans du tradi hardcore New York hardcore avec un personnage central, un gros clébard. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus. Je dirais pas d'inspiration d'Isolated, mais qui renvoie un peu sur l'esthétique de vos premiers albums.
Ouais, c'est pas faux.
Même s'il y a plus de couleurs.
Même la couleur bleu-vert. Alors, la couleur bleu-vert, c'est un peu un hasard. En fait, en vérité, moi, je regardais beaucoup. Enfin, je me suis dit, il se passe beaucoup de choses à l'Est. Je regarde vers l'Est, vers l'Orient, depuis un petit moment. Et je disais déjà ça au quart en 2023, quand on y jouait avec Beyond, et enfin à l'époque, tu vois, Whispers, tout ça. Et au-delà des groupes et de la musique qu'ils y font, c'est vrai que j'avais un peu aussi ces souvenirs d'esthétique, Krishnakore et tout ça. Alors je dis, je suis pas du tout Krishna, on fait pas du tout du Krishnakore non plus. Mais c'est vrai que l'idée, en tout cas, de pouvoir s'inspirer sans trop dénaturer et sans, comment dire, usurper, bien sûr, des codes qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Mais l'idée, c'était vraiment de pas. Alors, déjà, moi j'étais tombé amoureux du travail de Hafiz, un Indonésien qui a réalisé cet artwork. On a parlé entre guillemets en petit anglais tous les deux sans aucun jugement parce que c'est pas notre langue maternelle respective pour pouvoir très rapidement en fait aboutir sur ça. Alors moi cette idée je l'avais depuis quasiment 4 ans en fait hein. Cette idée de Bouddha à 1000 bras qu'on appelle le Bouddha rédempteur, l'Avalokiteshvara en fait plus exactement, et scindé en deux parties, et je me suis, enfin, je sais pas, j'avais cette image-là, comme je l'ai eu pour Stigma, comme j'ai pensé Sentence également, et alors c'est vrai qu'on est sur quelque chose de plus fin, on est sur quelque chose qui peut s'apparenter peut-être, quand on regarde de loin, ouais, peut-être un peu plus moderne. C'est vrai que les traits qui avaient pu être réalisés sur nos deux précédents albums, Mais je trouve que finalement, le contraste, moi en tout cas, prend bien. Et c'est aussi. Il est blindé de détails, ce visuel-là. Et,
Oui, très très riche.
Disons que en vinyle aussi, on se rend davantage compte par rapport au CD des choses que l'on peut. Des détails contenus. Et c'est vrai que. Moi, j'avais tellement de choses à dire sur cet album que j'aurais pas pu me limiter à quelque chose d'aussi condensé, par exemple, que sur le visuel de Sentence. Et puis, j'avais besoin de quelque chose de contrasté. Et c'est vrai, alors, ce que tu me renvoies par rapport à la couleur, nous, on voulait quelque chose justement qui sorte un petit peu des codes couleurs. Mais en même temps, on ne sort pas de nos codes couleurs. Hein. Quand tu regardes de près, il y a du sépia, comme quasiment nos deux précédents albums, avec le marron qui est très prédominant sur le verso de la pochette. Et sur le recto, c'est vrai qu'on a, on a ce bleu vert qui fait partie aussi hein, de l'hindouisme de certaines figures comme Vishnu notamment. Et alors, ce n'est pas nous qui les avons choisis, hein, mais elles nous ont été proposées spontanément. Et c'est vrai que nous, on a totalement adhérer à la chose. Et alors, c'est marrant le clin d'œil que tu fais des Zoléitide parce que, alors, nous, la pochette d'album, on l'avait, mais l'album de Zoléitide n'était pas du tout sorti. Et c'est vrai que quand moi j'ai vu ça, j'ai fait oh, fais chier. D'une certaine manière, même si on n'est pas sur la même colorimétrie et tout ça, on espère toujours, d'une certaine manière, être une des seules personnes sur cette vague artistique. Bon, bah, comme quoi, hein, de toute façon, on est énormément sur.
Oui, bah, à l'occasion, tu regarderas la. À l'occasion, tu regarderas la pochette du prochain album de E4. Je pense que c'est une tendance artistique à l'heure actuelle, sans que les groupes, sans que les styles ne se concertent.
Ouais.
Tu seras agréablement surpris de voir quelle tête elle a. Alors que vous n'avez pas du tout fait appel à la même technique ni à la même personne. On se fait un deuxième break musical. Et après, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette interview avec toi, Emile, pour nous parler de ce Divide, quatrième album de Beyond the Six. On s'écoute le titre Deadlock 5, qui est l'avant-dernier morceau de l'album. Et après l'avoir écouté, on en parle un petit peu. C'est parti. Yes.
everybody, living in fear.
Toujours à l'écoute d'Hellbanger, toujours dans cette émission spéciale, en interview avec Émile Le Gueulard, clairement bien nommé sur ce 4ème Effort Studio, de la formation Tourangel Plus, on l'a bien compris, et qui est Beyond the Sticks, que maintenant on retrouve à Nantais, et puis tout le monde n'est plus dans le giron Tourangeau au niveau de votre line-up, loin de là d'ailleurs, un groupe presque hexagonal maintenant. On vient de s'écouter Deadlock 5, le second extrait que vous avez mis en ligne, assorti d'un clip. Pourquoi avoir choisi de diffuser en deuxième titre le 9e morceau d'un album ? C'est pas banal. À 9e et au passage à avant-dernier.
Bah ouais, c'est la première fois, tu vois, qu'on nous pose cette question. C'est quelque chose qu'on avait plus ou moins déjà fait sur Stigma. Avec la, si je dis pas de bêtises, Walls, qui ne fait pas partie de la première face du vinyle. Pourquoi ? Bah en fait, disons qu'il avait été choisi comme single presque avant son positionnement. Il y a toujours des questionnements dans le groupe. Moi, c'est vrai que ça me paraissait peut-être un petit peu ambitieux, mais c'est un titre qu'on avait vraiment envie de mettre comme single, et c'est par contre un titre qu'on n'imaginait pas dans la face A, parce qu'il y a aussi un côté un peu réponse avec Never Ending War, notamment en termes de thématique, et j'avais pas, pour ma part, envie qu'on ait une face A qui ne parle que de la guerre et ses méfaits, même si Deadlock V n'a pas vocation à être un Never Ending War bis, mais traite quand même la dimension thématique de la vengeance, notamment à travers le prisme de l'ego, notamment sur tout ce qui se passe en Mésopotamie, pour ne pas citer Gaza, Liban, Syrie, Israël. Et c'était un petit peu l'idée, en tout cas, de pouvoir aborder ces questions-là sans prétention historienne, mais en tout cas sous une dimension humaniste, pacifiste, de personnes qui s'interrogent fortement sur le silence international peut régner autour de champs de ruines provoqués par un État qui a tellement subi par le passé et qui fait tellement subir aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose d'interpellant. On parle des violeurs violés. Est-ce qu'on parlera un jour des agressés, agresseurs ? Je ne sais pas. Mais en tout cas...
Des génocides et génocideurs. On peut employer certains termes complètement appropriés. Voilà. C'est une radio libre, on n'a aucun contrôle d'État sur le sujet. Parce que tu parles d'un silence international, c'est pire qu'un silence international, c'est un parti pris pour cet État agresseur.
Enfin, et
ça, après, nous... effectivement, on n'est pas là pour se lancer dans un débat géopolitique,
mais, non, mais...
je vois l'idée. Ouais.
Nous, on a un titre qui s'est complètement fait striker... Au niveau médiatique, donc c'est vrai que c'était un pari risqué, mais un pari assumé. Voilà, quand tu vois que Metal Hammer Espagne partage ton clip et que 90% des autres médias refusent de le diffuser, et que même tu reçois pour certains des messages d'insultes, c'est arrivé une fois en tout cas pour un webzine suisse. Pro-Poutine, j'ai halluciné ce que je lisais, j'ai pas répondu, mais c'est vrai que c'est assez interpellant quand même de voir ce que peuvent générer certaines thématiques, voilà, tout simplement.
Très bien. Divide, le nom de ce 4ème album, quelle symbolique ou quelle signification derrière ce titre d'album ?
Eh bien, ni plus ni moins que, je dirais, celle d'un monde on ne peut plus polariser. C'est vrai que moi, je tenais à prendre une figure véritablement orientale parce qu'en fait, on a toujours eu tendance à regarder vers l'ouest. En tout cas, moi, en tout cas, je trouvais qu'on... Voilà, c'était à l'Amérique. Et je trouve qu'on regarde tellement peu l'Afrique et même, je dirais, l'Asie et l'Océanie de manière générale. Il me paraissait important de tourner le regard vers celle-ci. Et Divide, en fait, n'a vocation qu'à mettre, je dirais, en exergue le prisme existant entre des choses que tout, enfin des gens que tout oppose, mais que tout a toujours opposé, mais qui avant arrivaient à composer avec, mais qui finalement n'arrivent plus à composer, à faire avec à l'heure actuelle. Voilà, on a toujours eu autour de nous des gens d'avis politiques distincts, de conditions sociales distinctes, mais on vit dans un monde à l'heure actuelle, j'ai l'impression, où tout nous oppose et on tend à accentuer davantage les forces qui nous opposent, ce qui je trouve particulièrement dangereux parce qu'on est d'autant plus propice à la manipulation dans ce genre de situation. Et il ne faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, que c'est l'altérité qui fait notre force, c'est l'altérité qui fait notre richesse, et que finalement, ce n'est pas en composant des nations de personnes identiques à la pensée stérile qu'on arrivera en tout cas à tirer vers le haut quelque chose qui peut faire société ou peut-être civilisation, je ne sais pas. Mais beaucoup de personnes se laissent totalement dompter, pour ne pas dire, lobotomiser, par des paroles, des discours politiques qui sont réutilisés par un certain nombre de médias qui appartiennent à des minorités milliardaires qui, de par le pouvoir de l'argent, rendent des pensées finalement propagandistes, j'ai envie de dire. Et je trouve ça terrible de vivre dans un monde où des vieux cons milliardaires font la pluie et le beau temps, et où beaucoup de gens aussi se détournent de la politique. Je comprends la déception qu'elles peuvent en avoir, mais n'oublions pas, jusqu'à preuve du contraire, que c'est encore nos bulletins qui élisent des gens, et que même si ça change peut-être pas grand-chose, ça peut peut-être permettre de limiter certaines choses. Et le fait d'être parent aussi, doublement depuis quelques mois, m'oblige à penser peut-être les choses de manière plus posée, plus sage. Et cet album, sans aucune, je dirais, pensée moralisatrice, à l'optique en tout cas, de permettre de penser les choses de manière certes peut-être frontale, mais de laisser le temps de penser finalement les choses, de peut-être pas les subir autant qu'on les subit, même si finalement c'est un brûlot de 25 minutes qui t'en fout peut-être autant ou plus. Une journée de nouvelles, mais bon, voilà, c'est un peu de l'ultra-sensibilité, je dirais, fluidifiée de manière artistique, quoi, à notre manière, quoi.
Tu parlais de fluidité, que je t'ai laissé complètement t'exprimer sur le sujet, voilà, Divide, c'est pas juste une symbolique, c'est une signification lourde, avec toujours cette sous-couche de militantisme, ou du moins d'expression, comme tu parlais tout à l'heure, d'humanité. Cet album, vous le dégoupillez très prochainement. C'est quoi la date officielle de sortie? Comment est-ce qu'on peut se le procurer? Sous quelle forme?
Alors, l'album va sortir le 8 mai, vendredi 8 mai, probablement à 6h du matin, puisque vu qu'il sortira à 8h à minuit à Philadelphie, je pense que le fuseau horaire fera qu'il sortira chez nous en Europe pour 6h du matin. Vous pouvez dès à présent en fait l'acheter en pré-vente sur Bandcamp, sur Cartel ou alors sur notre site internet officiel hein, www.beyondthesticks.com. Voilà, après, donc nous, on le jouera dès le lendemain sur scène au Nouvel Atrium à Saint-Avertin. Un baptême du feu, je dirais, dans cette salle, parce que je ne sais pas s'il y a déjà eu des choses aussi violentes là-bas.
Assurément.
D'accord. Et aux côtés, du coup, de groupes qu'on affectionne. Alors, bon, c'est particulier. On n'avait pas pensé faire notre release avec deux concerts d'adieu, savoir ceux de Scumbags et de Final Showdown. Mais c'est. Pour Scumbags, on s'en doutait un petit peu, on en avait parlé, mais pour Final Showdown, c'était un peu un coup du sort parce qu'on s'y attendait pas. Et puis, l'invitation de Fatal Move, avec qui on a déjà partagé plusieurs dates, et puis 6 Gram 8 également pour soutien à la scène émergente, enfin émergente. On va dire national, parce que Six Gram 8, ils sont plus vieux que Beyond, donc on va peut-être oublier l'aspect émergent. Donc voilà, et puis une soirée prix libre, parce que, alors ouverte en réservation, hein, bien sûr, sur Hello Asso, on peut trouver les liens sur la page de Riposte Asso, quel que soit d'ailleurs le réseau social attribué. Et prix libre, du coup, pour permettre à tout un chacun. De ne pas se freiner parce qu'on vit dans un monde, je l'apprendrai à personne, le coût de la vie, le coût des hydrocarbures, le coût de tout devient tout simplement étouffant. Et même si tout ça n'avait pas été pensé dans cette réalité-là, parce qu'en vérité, ça a toujours été prix libre, cette release party, puisqu'on l'a annoncé il y a 3 mois et il y avait pas de Détroit d'Ormuz, en tout cas, aussi prégnant à l'époque. Ça pourra peut-être permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de passer une bonne soirée en la compagnie de ces 5 groupes.
Très bien. Pour vous, il y a d'autres dates derrière déjà annoncées ou pas encore ?
Oui, on a annoncé donc plusieurs dates, un peu partout en France, enfin un peu partout, principalement dans le sud et sud-ouest. Du coup, on a la chance de pouvoir jouer notamment à Frontignan, c'est juste à côté juste à côté de Montpellier, dans des arènes, sur un festival prix libre également, qui s'appelle l'Acufen Metal Fest. On jouera également au mois de juin du côté de Pau, à Barinck exactement, dans le 64, sur un festival, un jeune festival qui passera dans une MJC qu'on affectionne particulièrement comme structure, pour que ça dure. Début août, on aura aussi la chance de se produire à l'Extreme Fest pour la deuxième fois. Côté de grands noms, donc c'est particulièrement cool. Et puis bon, on a plein d'autres dates qui arrivent derrière qu'on n'a pas encore annoncé parce que priorité à l'annonceur, quoi, tout simplement. Mais c'est chouette. Et puis j'espère qu'on pourra encore permettre en toute humilité aux gens de s'intéresser à la scène locale, à la scène tourangelle. C'est toujours cool de pouvoir représenter Tours en France et puis ailleurs, quoi, parce que comme je dis, nous on joue en régional, quoi, mais n'empêche qu'on n'a pas à rougir, parce qu'en termes de festival, en termes de scène locale, malgré le peu de lieux, je dirais, qu'on a, on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu. Maintenant, je me permettrais juste de faire un gros appel du pied, pour pas dire même peut-être une béquille à la jeune génération, parce que Beyond va avoir 15 ans, et sincèrement, j'aimerais bien que de nouveaux jeunes groupes, en tout cas, ou peut-être moins jeunes, mais des nouveaux groupes puissent émerger, mais ne soient pas forcément portés.
De jeunes formations, pas forcément des jeunes musiciens, mais ouais.
Que certains puissent se lancer Voilà. Après, c'est notre rôle aussi de pouvoir peut-être permettre cela. Mais je pense qu'on n'a jamais été aussi bien loti en termes d'association. Tu es bien placé pour savoir, Damien, qu'est-ce que la disette a pu être en termes associatifs sur Tours. Là, ce n'est plus le cas. On a aussi des scènes qui peuvent permettre à des groupes d'évoluer également. Et j'aimerais vraiment que certains jeunes puissent peut-être se faire confiance et puissent lancer véritablement. Parce que voilà, on s'est tous lancés à un moment donné. Et quand je parlais de balbutier son hardcore, enfin, Beyond ne rejouera certainement jamais certains titres de ses premières galettes, mais j'en ai pas honte. Et ça a été une première pierre, et il faut toujours une première pierre pour poser un mur. Et voilà, il faut y aller, quoi. À un moment donné, faites-vous confiance, quoi. La scène a besoin de vous, quoi.
Tu parles de poser des pierres, moi je parle de poser des fleurs et de poser la fin de cette interview qui, à mon sens, c'était pleine de richesses, d'informations et d'anecdotes. Qui viennent forcément enrichir ces échanges. Donc, avant de te remercier, Émile, tu nous offres l'opportunité et le plaisir de diffuser un titre pas encore sorti sur les plateformes. J'avais le poids sur le reste de l'album. Je me suis donc arrêté sur le milieu de l'album, le titre Flower of Violence, qui est pour moi particulièrement un bon titre, qui malgré moi, on va dire, fait en plus écho à l'excellent album de la dernière tête d'affiche du Ripfest l'année dernière, à savoir Stick to Your Guns, et leur excellent dernier album Keep Planting Flowers. Donc j'ai dit voilà, les planètes s'alignent. Fleur Wildlands, un petit mot sur ce titre, et puis après on va se quitter.
Je pense qu'il n'y aurait pas pu avoir meilleur titre parce qu'en plus, il y a la chance de pouvoir rassembler, deux côtés de la scène locale, puisque malgré le fait que Sisterhood Issue n'existe plus, j'ai eu la chance de pouvoir partager du coup ce titre-là avec Delphine, la chanteuse qui n'est autre que l'ancienne chanteuse, enfin même la dernière chanteuse et première chanteuse du groupe. C'est un titre qui sent, je dirais, prétendre révolutionner le genre de l'écologie, je dirais, voulait un petit peu se mettre un peu à la place de, quoi, tout simplement. Il y a des gens qui pleurent parce que il fait chaud, ou il y a des tornades. Mais mec, c'est comme si tu saignais tous les jours, finalement, je dirais, ta propre mère et que tu te plaignais qu'elle commence à devenir pâle. Bah écoute, à un moment donné, nous, on vit avec du vivant et on tend à le meurtrir. Et bien, je pense que c'est tout à fait normal qu'il nous rende la monnaie de sa pièce. Et voilà, une fleur, c'est beau, mais une fleur, ça peut faire saigner également, comme le font certaines roses. Et j'avais envie de rendre à la planète tout le mérite et puis tout l'amour qu'elle mériterait finalement, mais d'une manière détournée. Et je remercie encore grandement Delphine d'avoir accepté très simplement l'invitation et de s'être prêtée, au jeu d'un featuring que j'ai hâte de pouvoir faire vivre. Voilà.
Eh bien, avec grand plaisir en tout cas de l'ajouter en clôture de l'interview d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps et cette discussion super intéressante comme à l'habitude.
Merci à vous.
On vous souhaite bien évidemment le meilleur déjà pour la sortie de cet album, pour cette release party,
yes,
à laquelle on ne manquera pas d'être présent. Enfin, moi, tous les mois. Et puis, on suivra avec attention et intérêt la suite de l'aventure avec les dates. Et puis, je vais m'offrir, continuer à m'offrir ce privilège de pouvoir m'écouter l'album en version numérique jusqu'à sa sortie et encore plus par la suite. Merci beaucoup, bonne continuation. Et puis, à très bientôt, Émile, parce qu'on parlera du RIP dans pas longtemps.
Ouais, complètement.
À bientôt. Bonne fin de journée, merci.
Merci beaucoup. Ciao.